Une vie, une œuvre, Yoris Evans, 1898, Hollande, 1989, Paris. Georg Henri Anton Yoris Evans naît dans une famille aisée. Son père détient une société en lien avec la photographie. À 13 ans, il tourne un premier court-métrage, La Flèche Ardente, où joue toute sa famille en tenue d'Indien. Dès 1927, il réalise des courts-métrages expérimentaux. 3 ans plus tard, il part pour l'URSS. Au retour, il réalise Philips Radio, un poème visuel qui déplaît à l'entreprise qui le lui avait commandé. À partir de là, comme il l'écrit, il change de cap à 180 degrés et dès les années 30, s'engage dans un cinéma militant. Sa dénonciation de la misère dans Borinage lui vaudra une interdiction de projection publique. Toute sa vie s'écrit ensuite caméra à l'épaule, de l'Espagne franquiste à la Chine, puis les États-Unis, où il travaille avec Robert Flaherty et Frank Capra. Il est primé à Cannes en 1958 pour La scène a rencontré Paris. Dans les années 60, il s'installe en France. Que ce soit au Mali ou au Vietnam, il filme et transmet son goût du documentaire. Son dernier combat sera avec Le Vent, en Chine. Antoine Ravon signe, avec Ghislaine David, Une vie, une œuvre, Yoris Evans.
Nous creusons de très grands abris. Pas seulement pour nous protéger des bombes quand un tombe, mais pour y vivre. Nos abris ne sont pas de trous où nous nous terrons. Nous avons un mot d'ordre. Transformer les abris en postes de combat. Nos abris sont nos postes de combat.
Une fois de plus, la guerre vécue et subie, celle du Vietnam. Yoris Evans, le grand cinéaste témoin de notre temps, a réalisé pour la 3e fois un film au Vietnam. Après Le ciel, la terre et l'une des meilleures séquences de Loin du Vietnam, voici un long métrage présenté aujourd'hui à Paris, le 17e parallèle.
Je crois que le film documentaire, il doit filmer les points névralgiques dans l'histoire. Et je crois qu'un des grands points névralgiques à ce moment, du présent, c'est le Vietnam. Cette fois, j'ai pensé qu'il faut mieux faire un film plus approfondi qui dépasse déjà l'actualité. C'est pour ça que j'ai choisi un village. Et pour le faire très fort et très poignant, on peut dire, j'ai choisi le point le plus chaud de cette guerre dans le Nord, c'est le Vietnam Nord. C'est près du 17e parallèle.
Cette route menait à Ho Sa, elle n'y va plus. La vigne de Ho Sa n'existe plus, rasée par les bombes.
Alors là, en face de l'ennemi, mais on a le canon lourd de Con Tien. On a très près de la mer, on a le 7e flotte qui pilonne. Et on a le bombardement de trois côtés. Trois côtés. Alors, ça force la population, naturellement, d'être sous la terre pour se protéger.
Sa destruction a coûté 76 avions aux Américains.
C'est vraiment, vous allez voir que, par exemple, beaucoup de paysans ont 3 abris. Un abri pour faire leur dîner, leur manger, un pour dormir, et même plus profond, quand le B-52, c'est le bombardier très lourd, bombe le village.
Ici, il y avait une école. Là, un grand marché. Là, un hôpital. Là, un théâtre.
Alors, leur abri, c'est intéressant parce que c'est pas seulement défense. Il appelle ça l'abri doit être un poste de combat. Alors, ça donne en même temps une sorte d'activité, on peut presque dire, dans l'abri, parce que toute la vie se passe dans l'abri. Et vous avez voir dans le 17e parallèle qu'on a mangé, dormir, discuté, théâtre, un hôpital, les écoles. Tout se passe sous la terre. Alors, ces 2 mois, j'ai pour le moment, j'étais avec une équipe, une Française, Marceline Loridon, et 12 Vietnamiens, opérateurs et assistants. Alors, on a vécu pour le moment de ces 2 mois, un tiers de notre temps, dans le bombardement, dans les abris, forcés par le bombardement américain.
Avez-vous fait un commentaire pour ce film?
On a très peu de commentaires. J'ai fait 40 minutes du film, qui est 150 minutes, de dialogue vietnamien, avec des sous-titres. Et on a un commentaire très court, qui ne s'impose pas du tout. Je veux que les gens, quand ils vont mon film, ils vont réfléchir.
Yoris Ivens, Caméra au point, par Antoine Ravon.
Moi, j'ai demandé à Yoris, j'étais allé le voir, pour récupérer des vrais sons de la guerre du Vietnam.
Jean-Pierre Thorne.
J'étais un gamin, hein, j'avais, je sais pas, 19 ans, 20, non, 20 ans. Et c'était incroyable comme il m'a pris au sérieux. Il m'a dit, je veux bien, mais organisez-moi une projection pour savoir ce que c'est votre film. Et suite de cette projection, il m'a dit, venez chez moi. Enfin, il m'a fixé un rendez-vous. Et Marceline m'avait sorti une boîte avec plein de bobinots de trucs de guerre. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Après, j'ai eu plein d'autres occasions. Je me rappelle, j'étais à la première de Loin du Vietnam, où il y a une séquence que lui a filmée au Vietnam. Et bon, j'avoue que je trouvais les autres, comme Godard, parlaient de leur impossibilité, un peu le discours que j'avais à l'époque, de parler vraiment de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, Godard était sifflé. Et par contre, Yoris on voyait la vie quotidienne... À Hanoï, comment ils recevaient, les Vietnamiens recevaient les bombes américaines au napalm et tout. 17e parallèle, c'est pareil, c'est des films qui m'ont marqué. Et je dois dire que si aujourd'hui j'ai décidé un peu de que ma vie soit consacrée à accompagner les luttes ouvrières et les luttes des peuples pour leur libération, je le dois vraiment à Yoris. Pour moi, c'est quelque part... un père spirituel qui m'a ouvert à une prise de conscience politique.
Il a été à chaque fois au front des lieux ou des situations qu'il voulait filmer. Il a été là où la chose s'est passée. Donc il n'y avait pas de doute.
Costa Gavras.
Que ce qu'on voyait, c'était la vérité. Enfin, sa vérité, bien sûr, puisque les choix, c'est toujours... Un film, c'est la vérité de celui qui le fait, n'est-ce pas? Puisque le choix des images lui appartiennent. Donc, elles se font aussi avec une certaine philosophie de la vie et de la situation qu'il filme. Mais là, c'est la vérité des Yoris Ivens à chaque fois, incontestablement. Mais pour remonter un peu en arrière, il faut dire que ça appartient un tout petit peu à la génération Vertov. Ils ont appris le cinéma, que ce soit Chris Marker et quelques autres, qui ont fait des grands documentaires, des grands films sur la vérité de leur époque. C'est l'exemple, c'était Vertov. Donc c'est là où il y avait la sincérité aussi. Enfin, chez Vertov, ça a duré jusqu'au moment où il est passé par la censure et il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait faire. Mais ça a influencé beaucoup la génération des Yoris, ça a influencé aussi beaucoup la génération des 68. Chris Marker parlait souvent de Vertov.
Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai revu le début de Brugge, le pont, c'est très vite, au bout de quelques secondes, un gros plan de la caméra qui est en train qui commence à filmer le pont.
Dominique Noguez.
Toutes ces coutures et en essayant de montrer comment ça fonctionne. Puis derrière, on entrevoit un visage, c'est peut-être celui de Yoris Ivens à ce moment-là, en 1928. Mais c'est un hommage, tout ça, à Dziga Vertov. En tout cas, il s'inscrit dans cette continuité, et tout de suite avec un certain brio. Le sens de Dziga Vertov, ça veut dire la toupie qui tourne, enfin c'est un terme un peu poétique. C'est un cinéaste engagé, évidemment, Dziga Vertov, mais en même temps... Qui recherche des plaisirs purement esthétiques, sans cesse, des effets de géométriques, des mouvements, un mouvement vers la gauche, un travelling vers la gauche, un travelling vers la droite, enfin sans arrêt, tout un aspect formel et qui est une des choses, une des caractéristiques de ce qu'on appelle le cinéma expérimental, que Tsigan Vertov est un des premiers à avoir ainsi baptisé.
Je vais vous montrer la pluie.
Parce que la pluie, donc, qui est datée de 1929 en général, ça, alors, c'est une figure obligée du cinéma expérimental de l'époque. Enfin, ça fait penser aux films certains films de Germaine Dulac, d'Henri Chaumette. Et cette étude de reflets, de vitesse, enfin, des choses comme ça, où il y a des plans de. Des temps, de surface d'eau, comme ici, là, d'ailleurs, avec quelquefois la pluie qui commence à tomber, à faire des petits cercles. Donc là, il est vraiment. Mais il a pu lui-même inspirer d'autres gens, mais enfin, on a l'impression qu'ils parlent tous à ce moment-là. Enfin, les quelques-uns qui veulent faire du cinéma pur, comme dit Germaine Dulac, on a l'impression qu'ils parlent tous la même langue visuelle, qui tombe un peu par, pas forcément par imitation, mais par une espèce de logique. Ils cherchent à montrer ce qui est photogénique, comme disait Epstein. Et là, la pluie, c'est vraiment. Un film qui inscrit Joris Ivens dans cette avant-garde-là, parce qu'on les a appelés l'avant-garde des années 20. Enfin, d'ailleurs, il a presque commencé par la pluie, il a quasiment fini par le vent. Toujours les grands éléments cosmiques. Au début de Valparaiso, parce qu'on va y venir, mais on commence par d'énormes vagues. Là, c'est l'eau plus le vent.
Chrétien et hollandais, il était né en Hollande, à Nimègue.
Oui, voilà. Et alors, donc, il a été élevé donc à Nimègue. Il avait un père qui était très autoritaire, qu'il a pendant un certain temps rejeté.
Claude Brunel.
Et puis après, il est donc venu. Il est allé en Allemagne faire quelques études et il est revenu en Hollande et il a commencé à tourner.
Contre l'autorité de son père, justement,
oui,
au début.
Voilà, son père ne voulait pas du tout qu'il fasse du cinéma, parce que son père avait un magasin quand même assez important de matériel photo, cinéma, et il aurait voulu que son fils travaille avec lui. Mais Joris, il avait envie de faire des films, lui, alors, voilà, parce qu'il avait découvert le Poudovkine, tous ces cinéastes russes des années très célèbres dans les années 20. Il avait rencontré Poudovkine à Amsterdam, voilà, il avait vu toutes ses œuvres. Plus avec des copains, ils avaient créé une sorte d'association. Et alors, dans cette association, non seulement ils faisaient des photos, mais ils avaient découvert que le cinéma, ça allait être l'art du XXe siècle. Et il y avait tout un langage à acquérir. Et c'est ce qu'a fait Ivens, parce que tout de suite, il a affirmé, déjà avec Le Pont, qu'il fallait, un, regarder, deux, mettre en image, c'est-à-dire cadrer, mettre en mouvement, puisque le cinéma, c'est l'art du mouvement aussi, donc tenir compte du temps. Il a compris ça tout de suite.
Quand j'ai fait mon film La pluie, on ne connaît pas le mot court-métrage, on ne connaît pas le mot documentaire même. C'était l'avant-garde. En France, un peu psychologique, avec Claire, Buñuel, Germaine Dulac. En Allemagne, plus technique, plus mathématique, Rothman avec ses dessins animés et tout ça. En Russie, en soviétique, plus réaliste déjà. Et je crois, moi, avec mon tempérament hollandais, c'est un mélange de réalisme et lyrique. Et on trouvait d'un jeune cinéaste son chemin. On n'a pas d'école, rien. Alors c'est tout, expérience soi-même. On voit des films d'autres, on pense que je peux faire ça moi-même aussi. Heureusement, parce que j'étais troisième génération photographe. Voilà. C'est un peu dans mon sang.
Et donc c'est avec la Film Liga, avec cette association de cinéma, qui se met à inviter des cinéastes soviétiques.
C'est ça. Et après, il va partir en URSS.
Et c'est Poudovkine qui l'invite en URSS.
Voilà, après. C'est ça qu'il fait venir en URSS. Et là, Ouais, il va faire le tour des grands centres enfin, culturels de l'URSS. Quoi. Et puis en plus, à ce moment-là, il y avait aussi, pour certains, une découverte du communisme. Alors après, il ne fallait plus prononcer le mot communisme, il fallait dire socialisme, mais ça a été quand même une grande découverte pour des jeunes, cette volonté d'égalité entre les hommes, de l'importance de la culture, ça a été un grand moment hein, dans les années 20, 30, 40.
Il a été en URSS.
Oui. Oui. Où il a réalisé comme Sommel le chant des héros. Justement, je voulais vous en montrer un extrait. Alors, c'est une scène qui est particulièrement forte, je trouve, parce que il filme en URSS la construction d'un haut fourneau pour extraire le fer, et il montre la jeunesse communiste à quel point, enfin la force qu'elle a. Et l'enthousiasme qu'elle a à réaliser ce haut fourneau. Et là, c'est la concurrence entre deux ouvriers dans la construction de ce haut fourneau. Mais là, en tout cas, on voit deux ouvriers qui sont vraiment en train de concurrencer combien a installé le plus de rivets. Alors, il y en a un qui en a fixé 300, l'autre 290. Alors, il accélère le rythme.
Mais il y a un commentaire
Alors, c'est vraiment un film muet, mais le commentaire, c'est uniquement...
C'est des intertitres.
Oui, c'est des intertitres.
Alors là, la recherche d'effets d'humour, de montrer le travail, montrer la production, c'est des thèmes très ingrats, mais de façon à ce que ça fasse sourire quand même, qu'il y ait des petits moments d'humanité ou de drôlerie.
Oui, c'est ça, et à la fois l'enthousiasme de ces jeunes qui... travaille dans des conditions
difficiles. Ah oui, mais il ne s'agit pas de montrer des gens qui en ont marre du socialisme. Non, ça... Il y avait, à propos d'humour, et je pense justement que s'il y avait une tendance à l'humour chez Joris Ivens, c'est bien la preuve que ce n'était pas un militant pur et dur, enfin. C'était un militant doux et... Je crois que le militant n'a pas le temps de faire de l'humour.
Et là, la grande audace de ma vie, ça a été Borinage, pour se jeter dans un grand conflit mondial presque à ce moment, après la crise, la grève, le syndicat, le socialiste, le communiste, le réactionnaire, le grand propriétaire, tout. Alors, où un temps où j'étais assez orthodoxe aussi dans mes compréhensions, c'est ce moment presque... Tu es où avec le gouvernement, avec le conservatif, avec le capitaliste ou avec le communiste? C'était assez simple, tu vois. C'est pas comme ça maintenant pour vous. Le communiste, c'est différent. C'est déjà un parti qui a des liaisons avec Moscou et qui infiltre des choses et qui veut des choses et il ne le dit pas ou il le dit et tout ça. C'est autre chose. Pour nous, c'était un courant.
Alors, je vous montre un dernier extrait. C'est un extrait de Borinage, que vous avez dû voir aussi.
Oui, il y a longtemps.
Alors, il raconte la grève de mineurs dans la région du Borinage. Et là, c'est un moment où un huissier se déguise en ouvrier, c'est ce que dit l'intertitre, pour pouvoir venir saisir les meubles des ouvriers. Sauf que les ouvriers arrivent eux-mêmes ensemble, enfin il y a une solidarité qui se crée et qui empêche comme ça d'enlever les meubles.
C'est ce qu'on appelle des luttes. Donc là c'est... Et là aussi c'est un film muet.
Oui, là c'est complètement muet, il n'y a même pas de musique. Il a été tourné à moitié dans la clandestinité.
Mais les caméras n'étaient pas... Enfin je ne sais pas comment était la caméra là. C'était souvent sur des trépieds, ça se voyait quand même. C'était pas encore le cinéma direct, avec la caméra à l'épaule. Ou...
Ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que c'est une des scènes où on voit vraiment qu'il ne veut pas seulement filmer la misère. Et d'ailleurs, il n'était pas d'accord avec Henri Storr qui voulait appeler ce film « Misère au Borinage », parce qu'il ne voulait pas susciter un sentiment de compassion, mais au contraire, il a une phrase où il dit « Chaque plan devait dire « j'accuse » et non « je compatis ».
Oui, mais là, tout d'un coup, il y a un gros plan de réveil. Qu'est-ce que ça veut... comment vous interprétez ça?
C'est
les objets de la vie quotidienne. c'est une attention de poète, là, tout d'un coup, à des détails qui, nous, normalement, ne devraient pas nous retenir, puisque c'est une scène de tension politique.
Crie la solidarité des mineurs à empêcher, au moins provisoirement, l'expulsion.
C'est-à-dire que le sens a été rajouté par l'intertitre. Peut-être qu'il a réussi à les filmer à des moments où il y avait moins de tension, je ne sais pas. Ça, c'est ça qu'on peut appeler le réalisme, c'est-à-dire une manière tout d'un coup de donner un morceau de réel, de le faire étinceler, le laisser exister d'une façon en dehors, en lui-même, comme dirait Roland Barthes, là, quand il distinguait les noyaux et les catalyses. C'est une catalyse, c'est-à-dire c'est un morceau d'œuvre qui ne fait pas avancer l'action, qui n'est pas du tout dans la narration, mais qui est une espèce d'effet de réel, là, brusquement, qui ralentit les choses et qui nous tire vers la poésie. Et il y a peut-être ça chez Yoris, oui. Ça, c'est...
Et donc là, c'est ce que pourrait signifier ce plan sur le réveil.
Ce plan du réveil, oui. En plus que je vois là dans le champ un réveil aussi.
Mais Yoris a vécu à l'Occident, il a vécu en France, il a vécu en Amérique, un peu partout. Il a été aux endroits où les choses s'est passées, comme en Espagne. Par exemple, en 37, on le trouve en Espagne. En 40, il est américain. Il rencontre Flaherty. Donc Flaherty aussi, c'est disons, un peu le Vertov américain. Enfin, ce parallèle un peu facile, mais enfin, il y a de ça. C'est toute cette génération. Tout ça a joué un rôle sûrement important à sa définition de son métier, qui était aussi, et ça lui a coûté sûrement très cher, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui un peu facilement la gauche du cinéma, sinon l'extrême gauche, parce qu'il était avec beaucoup en Chine aussi. Quelle année est-il en Chine ? En 38, je crois, il est en Chine, si je ne me trompe.
En 38, la première fois, oui.
C'est ça. Et c'est vrai qu'en 38, il y a des grands mouvements en Chine. Il y a Mao et que l'Occident commence à avoir peur de la Chine. Et lui, il y va. Et il revient, et il va en Amérique, et puis il revient en France. Je veux dire qu'il est une sorte de... Je ne dirais pas un cosmopolite, mais c'est un homme où la Terre, ce qui se passe sur la Terre l'intéresse.
Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back.
Terre d'Espagne, il était aux États-Unis et il est venu avec Hemingway en Espagne pour filmer les républicains qui étaient en train de se faire exclure par Franco. Mais lui, il est allé filmer donc la campagne espagnole, les gens. Et ça fait un film absolument magnifique, Terre d'Espagne, hein, oui, 1937.
Parce qu'au départ, l'armée de Franco était quasiment assurée de perdre, mais elle a reçu le financement de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste, et c'est là qu'elle a pris en ampleur et qu'elle a pu gagner.
Oui, gagner.
Et dans ce film, il rend aussi compte de cette réalité-là.
Absolument, oui, oui.
Et ensuite, ce film, il l'a présenté à Roosevelt, à la Maison-Blanche.
Oui.
Et là, c'est là que j'ai appris qu'est-ce que signifie vraiment la guerre. Mais que tu sens qu'est-ce que je fais ici. J'ai été un appartement à Washington Square. À ce moment, je peux vivre bien et signer toute la déclaration pour l'Espagne. Mais j'ai senti, non, c'est nécessaire parce qu'ici, je peux témoigner, c'est ça, je n'ai pas été tout à fait identifié, témoigner de comment les gens luttent là, comment la brigade internationale de tous les pays sont là pour défendre la démocratie. Et le signal de ça, c'est le commencement de la Deuxième Guerre mondiale. La première fois que les fascistes utilisent militairement leur appareil, comme Guernica, c'était un exercice de bombardement. Alors là, on a commencé tout de suite. Hein. J'ai pensé, je commence avec des séquences, bêtement. Une séquence de haut-parleur qui va au front, très primitif. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il chante? on a des tranchées, comme dans la Première Guerre mondiale. Et lentement, on entre dans la vie. Et j'étais surtout avec la brigade internationale. Là, j'ai demandé au quartier général de me donner des papiers pour aller très près du front, en première ligne avec les caméras. Alors là, je me laissais aller. C'est l'ennemi qui a écrit le scénario, parce que tu vas là, on va attaquer là, ce pont sera attaqué, alors fais une séquence sur un pont. Là. Quand même, quelquefois, j'ai trouvé des lignes pour montrer que le front est très près du village. Alors, c'est comment le premier parti, c'est pas... Se chante presque le paysage et le paysan de l'Espagne. Tu viens presque impatient. J'ai promis un film sur la guerre. Mais c'est bien parce que tu es vraiment c'est baigné là-dedans. Et par Hemingway, on entend par le commentaire déjà un peu la guerre. Et là, la guerre s'introduit par le son. C'est un film avec très peu de commentaires parce que Hemingway a écrit, pas le scénario, mais le commentaire. Très lapidaire, très beau. Et c'est un film avec. C'est un film de 50 minutes pour moi, 10 pages de texte. C'est peu pour un film de commentaire. C'est formidable. Et pas bombastique, pas propagande, parce qu'on peut tomber très vite des grands mots contre le fascisme, etc.
Counterattack has been successful. The road is free. Six men were five. Then four were three. But these three stayed, dug in and held the ground, along with all the other fours and threes and twos that started out as sixes. The bridge is ours. The road is saved.
En 1936, Joris Ivens, considéré comme un dangereux communiste en Europe, accepte l'invitation de l'American Film Alliance de New York qui lui propose d'animer un cycle de conférences. Il vit d'abord à New York où il fait découvrir le cinéma documentaire européen, puis il part à Hollywood présenter ses films avant de retourner à New York. Son aventure américaine dure près de 10 ans jusqu'en 1945.
Ah oui, alors aux États-Unis, il a aussi tourné, parce que ça, on le dit jamais non plus, un film qui s'appelle L'électrification et la terre, où il montre justement le travail des Américains, des agriculteurs américains, et combien c'était très très dur pour eux. C'était pas le paradis, hein, les États-Unis.
Avant l'arrivée de l'électricité.
Et là, comme d'habitude, il filme pas comme ça d'une façon générale, avec c'est tout le contraire des reportages actuels. Il s'intéresse aux gens, il reste avec eux, il vit avec eux un certain temps, avec eux dans leur ferme. Il partage leur veillée à la bougie et leur joie, leur explosion de joie quand arrive l'électricité. Alors là, il tournait encore en noir et blanc, bien sûr, mais après, quand il a commencé à tourner en couleur beaucoup plus tard, notamment le film qu'il a fait sur la Chine, la couleur, il savait la... D'ailleurs, il donnait des cours à Shanghai ou à Pékin pour transmettre tout son savoir. Voilà. Et lui, évidemment, il met sa caméra au service des Chinois. Et quand il part, après avoir filmé 400 millions, il offre sa caméra aux Chinois. C'est comme ça que les Chinois ils ont pu commencer à faire du cinéma, grâce à la caméra, à la fameuse Kinamo de Ivens. Elle est au musée de Pékin.
Je crois à ce moment, je suis, si on peut dire, vraiment tombé amoureux de Chine. Et c'est pour ça que je crois, après, quand la Chine va à travers des énormes hauts et bas, que je suis vivant. C'est comme on est amoureux d'une femme, bon, on peut dire oui, elle a des beaux yeux, un merveilleux corps, elle a un esprit incroyable. Bon, c'est ça, un autre dit non, je ne vois pas. Et mon film, les 400 millions, il est aussi là-bas, le seul document dans ce moment de 38 fait.
n'a pas de télévision, je répète de nouveau, et un cinéaste qui a l'idée pour aller là et faire le film. Alors, ça te met toujours un peu en avant d'autres, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça, pour moi, je reste avec le documentaire. Parce que comme metteur en scène de fiction, tu n'as pas cette liaison. Pour moi, très intime avec un très... On dit mon studio, c'est le monde. On n'a pas de mur, on n'a pas de... On va à la limite, je peux dire.
Quand Yoris est aux États-Unis, il part...
En Australie, les marins indonésiens se sont mis en grève. Et Yoris, qui était donc envoyé par le gouvernement hollandais pour s'occuper de l'éducation en Indonésie, au lieu de prendre parti pour le gouvernement hollandais, a pris parti pour les marins indonésiens. Et donc, il les a rencontrés, il les a filmés. Et du coup, là, c'est là où la Hollande lui a retiré son passeport hollandais en disant que c'était un traître, etc. Alors que lui, il avait décidé... Il était avec Marion Michel à ce moment-là. Ils avaient décidé de filmer justement les Indonésiens, les marins indonésiens qui s'étaient mis en grève et qui ne voulaient plus retourner justement en Indonésie, qui faisaient grève, quoi.
Oui, voilà. Il a pris le parti de l'indépendance des Indonésiens.
Voilà. Indonesia Calling, ça s'appelle le film. À ce moment-là, c'était le grand développement de la colonisation. Hein. En France aussi, on était des sacrés colons, hein, par rapport à l'Afrique, par rapport au Vietnam.
Quand je viens d'Australie et je viens en Europe, je ne trouve pas de travail en Europe. Parce que, vous dire, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de personnalité. Un homme sans un passeport, ce n'est pas un homme complet pour travailler. C'est la bureaucratie. Donc je trouve travail derrière le rideau de fer. En même temps, c'est un peu quand même mon utopie. J'étais toujours socialiste, beaucoup de fois parallèle avec le mouvement communiste. Alors tout d'un coup, c'est là de nouveaux républiques qui sont socialistes. Maintenant, je dis soi-disant socialisme. À ce moment, j'ai cru. C'est presque utopie.
Ah, mais il était banni. Moi, j'ai un exemple personnel. J'étais élève en 58, 59. J'étais à l'IDEC, élève de l'Institut du cinéma, qui est devenu aujourd'hui la FEMIS. On avait une jeune femme qui s'appelait Michèle Firk, qui était une vraie militante et qui a voulu faire venir Yoris à l'école pour parler avec nous. Il n'a jamais réussi, parce que j'ai pensé que le directeur de l'époque a refusé. Réfugié parce que c'était la Chine, c'était les... Yoris ne parlerait de tous ces mouvements révolutionnaires dans le monde. Et je pense qu'il était d'ailleurs pas banni, mais pas reconnu ou écarté par la presse d'une manière générale, par la presse traditionnelle. Il est vrai que le fait aussi qu'il était toujours du côté de l'oppressé, du côté du révolutionnaire, c'était pas très bien accepté à l'époque. Les grands médias s'intéressaient de montrer, de présenter, de célébrer celui qui essaye de sauver le monde du communisme, des révolutionnaires en fait, plus que de communisme.
La scène, dite à manœuvre, un homme de peine, de rêve, de muscles et de sueur. La scène, c'est une usine. La scène, c'est le labeur. En amont, en aval, toujours la même manivelle. Des fortunes de pinards, de charbon et de blé qui remontent et descendent le fleuve en suivant le cours de la bourse. Des fortunes de bouteilles et de verres brisés. Des trésors de ferrailles rouillées, de vieux liquages abandonnés, récupérés. La scène, c'est une usine. Même quand c'est la fraîcheur, c'est toujours le labeur.
Et puis ensuite, donc, Ouais. Il réalise La scène à rencontrer Paris.
Oui, alors là, 57. Alors ça, c'est un des plus beaux films d'Evans, je trouve. C'est d'une telle poésie, c'est justement d'un tel amour pour cette ville qu'il a accueillie, et puis les Parisiens, les gens. Et puis c'est vrai que Paris, à ce moment-là, ça devait être extraordinaire. Partout, la poésie était présente. Les quais, La scène à rencontrer Paris, c'est magnifique. C'est un film sur les Parisiens, quoi, sur le fleuve, mais surtout sur les Parisiens, sur l'atmosphère de cette ville. Et Prévert, c'est Prévert qui lui a dit « je vais écrire le texte ». Donc il a fait un poème magnifique.
Qui est là, toujours là dans la ville, et qui pourtant sans cesse arrive, et qui pourtant sans cesse s'en va. C'est un fleuve, répond un enfant, un devineur de devinettes. Et puis l'œil brillant, il ajoute, et le fleuve s'appelle la Seine quand la ville s'appelle Paris. Et la Seine, c'est comme une personne. Des fois, elle court, elle va très vite. Elle presse le pas quand tombe le soir. Des fois, au printemps, elle s'arrête et vous regarde comme un miroir. Et elle pleure si vous pleurez ou sourit pour vous consoler. Et toujours, elle éclate de rire quand arrive le soleil d'été.
Pour lui, la caméra, c'était le prolongement, et ça a toujours été, de son regard. Quand il filme les arbres, par exemple, qui sont en train de... Dans le Mistral, par exemple, c'est très très beau ce film, on le connaît très très peu, mais c'est un très beau film qui rend compte du vent, de ce vent qui est à la fois violent, qui détruit presque tout sur son passage, voilà, et qui est un vent du midi de la France, le Mistral.
Moi, je me suis dit, c'est peut-être un peu simplé, ou simpliste, mais... Lui, enfin, c'est quand même un bourgeois, hein. Il est même un grand bourgeois, enfin, fils d'un fabricant de matériel photographique. Au fond, toute cette importance du vent dans toute son œuvre, enfin, dans des éléments cosmiques, mais en particulier du vent. Alors là, il y en a dans beaucoup de, y compris dans Valparaiso. Ça, c'est un des thèmes centraux. Je me demandais si c'était pas pour quelqu'un qui vient d'un milieu de l'image fixe. La photographie, c'est pas une revendication. Le vent, c'est le mouvement, c'est ce qui bouscule tout, ce qui distingue essentiellement le cinéma de la photographie. Le montrer et puis faire prendre à la caméra le point de vue du vent presque, parce qu'elle devient légère. Il y a des travelling comme ça pour une grande virtuosité chez lui. C'est une façon de dépasser la photographie et de célébrer ce qui fait une des choses essentielles du cinéma, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, d'après l'étymologie grecque, le mouvement. Mais le mouvement, alors, venant de la nature.
Une fois, je l'avais vu. Alors là, j'étais encore plus jeune, j'avais 16 ans, je préparais encore un court-métrage, et à Marseille, il était avec Carpita, et ils essayaient des caméras pour filmer un film sur le Mistral, qui était comment le vent... modifie la conscience d'une population. Enfin, donc, c'était un très beau projet. Et c'est ça que j'aime chez Joris. Pour lui, la nature est quelque chose d'extrêmement sensuel. C'est un homme, un grand humaniste. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup été énervé par tout un courant de pensée, de critique en France. Qu'il l'a voué aux gémonies en disant grand cinéaste stalinien. Mais Joris, on a tous été, j'allais dire, aveuglés par toutes les erreurs du mouvement communiste. On n'a pas su, en temps voulu, s'en détacher. Moi, j'ai essayé en 68, hein, parce que mon film est pas tendre vers la politique du PCF. Mais c'est vrai que moi, je pense que Joris allait bien au-delà. C'est vraiment un homme d'une grande sensibilité, d'un amour des gens. Il n'y a qu'à voir les gros plans qu'il filme, la beauté des visages qu'il filme. Et c'est pour ça que son cinéma a été important et continue à l'être. Et le réduire simplement au contenu politique des films, je trouve ça extrêmement réducteur.
Rien ne bouge, rien n'a bougé. Mais le berger suspend son souffle. Il s'inquiète alors du soleil sans visage, de la luisance du ciel et des feuilles, de la lumière nue comme une lame. Il s'inquiète alors du fugace frisson des branches, d'une rumeur dans l'alpille.
En 1960, Yoris Ivens est invité à Cuba par l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique. Il y rencontre Fidel Castro et réalise un film, Carnet de voyage, puis forme de jeunes révolutionnaires au cinéma de guérilla. Il voyage ensuite au Chili et atterrit au port de Valparaíso, où il décide de réaliser un film.
Encore 2 heures pour Valparaíso.
Pour tout vous dire, à Valparaíso, c'est le film de Yoris Ivens que je préfère.
Pourquoi ?
Il est central. Il est à peu près, bon, il n'est pas exactement à la moitié de son, parce qu'il a commencé, mettons, en 28, il a fini en 88. 60 ans de cinéma. La moitié, c'est à peu près 1968. Là, c'est, bon, à Valparaíso, c'est 63, si je ne m'abuse. Oui. Et c'est au milieu de l'œuvre de Yoris Ivens. C'est au milieu de cette histoire du cinéma dans laquelle il s'est inscrit très vite. Et moi, je dirais que c'est comme un lieu géométrique de toutes sortes de tendances de cinéma, le cinéma expérimental, le cinéma documentaire, avec des moments d'images du réel qui prennent un sens fictionnel. Enfin, il y a des amorces de fiction. Ça, c'est par la grâce du commentaire de Chris Marker quand il nous montre l'unijambiste qui monte les 121 marches. Et il se place en quelque sorte dans la tête de l'unijambiste. Il dit qu'il faut avoir une bonne mémoire. Donc là, c'est un film qui est au carrefour de tout et où tout est réussi. C'est inouï. D'ailleurs, s'il fallait, je sais pas moi, choisir parmi les plus beaux films qui existent pour donner une idée de ce qu'est le cinéma, je crois que à Valparaíso, moi, j'ai vu très très souvent. Je suis quand même très très admiratif. Et puis alors il y a ce brusque changement à la fin, cette apparition des images en couleur. C'est un procédé qu'il a utilisé aussi dans un film postérieur qui sur le Mistral, s'appelle Pour le Mistral. Oui, pour le Mistral.
Oui. En bas, c'est le port. C'était le port le plus riche. C'était le but, c'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place au fond du sac, côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaíso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche, mais il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline, 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. Deux mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs.
Ça commence mystérieusement par d'énormes, ben, sublimement, par des plans d'énormes vagues dans l'océan. Puis après, il y en a trois ou quatre, enfin. Et puis, il y a des images presque dans la brume. Puis tout d'un coup, on entend une petite voix qui dit « Valparaíso dans 2 heures » ou je sais plus, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui... C'est un bateau. Finalement, on comprend qu'à travers la brume, c'est un bateau qui arrive dans un port. Et voilà, c'est l'histoire de ce port. On commence par le bas et ensuite le haut. Tout ce qui se passe dans cette cité... Le titre s'explique par une chanson qui est à moitié en anglais et moitié en français. Une chanson de marin sur Valparaíso. Et puis, bon, à un moment donné, l'étymologie est rappelée. En espagnol, c'est Valparaíso, le Valparadis. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a encore un effet de montage et de coïncidence, de synchronisme extraordinaire. Il dit le paradis et puis ceux qui y vont ou quelque chose comme ça, et on voit un corbillard. Enfin, c'est un modèle là pour les. Il y a dans l'histoire des bons documentaires, des documentaires qui sont à la frontière du cinéma expérimental, c'est-à-dire où la composition de l'image, les formes qui sont dans l'image, ou les couleurs éventuellement jouent un rôle très très important. Dans l'histoire du grand documentaire, il y a des cas où il y a des effets d'humour comme ça. Mais là, dans Valparaíso, c'est constant.
Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaíso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaíso. tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer.
Et puis le film est assez court, finalement. Il fait quoi, 25 minutes? Alors que quelquefois, dans les films documentaires, et même ceux de Yoris, c'est un peu long, quelquefois, ça. Et on ne sait pas trop pourquoi ça continue comme ça. Et là, dans ce qui se présente finalement comme le portrait d'une ville, qui est plus que le portrait d'une ville, puisque ça c'est le côté giraldusien de Chris Marker, mais il se met à parler de la façon de vivre, du bonheur. Puis alors il y a aussi les luttes, enfin le conseil, le comité démocratique d'un des cantons de la ville, mais il y a une discussion démocratique pour savoir ce qu'on va faire. Et ça, c'est le côté engagé plutôt de Yoris sur le peuple qui doit s'organiser, enfin, des thèmes de socialisants. C'est un film qui est légèrement engagé, mais pas plus que ça. C'est pas lourdement engagé. C'est un film qui mérite d'être vu et qui peut plaire aujourd'hui, qui peut éblouir autant aujourd'hui qu'en 1963. On parle du bonheur, mais d'une façon plus proche de Giraudoux que de Karl Marx. À un moment donné, la grâce cinématographique est passée par Yoris, de même qu'elle est passée à certains moments par Renoir ou à d'autres moments par Godard, enfin, et par Chris Marker.
En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Un unijambiste monte l'escalier, 121 marches. Il le sait, il les compte. Il faut avoir le cœur solide et aussi une bonne mémoire. La rampe descend 10 fois plus vite que l'escalier. La descente va 10 fois plus vite que la remontée. On descend en riant. On monte en étouffant. C'est drôle, c'est fatigant, c'est abominable, joyeux, inhumain, solennel, ridicule, bizarre. En haut, trop de gens. En bas, très peu. Dans une heure, le contraire. Prise et reprise sans cesse, comme le fort de Douaumont. Une activité de guerre ou de grande manœuvre, avec assaut, sortie, percée, repli, victoire, déroute. Et quelquefois des trêves.
Et alors, quand il rentre, à peu près à cette époque-là, il rencontre une femme qui va être très importante dans sa vie.
Voilà, absolument. Marceline Loridan Evans.
C'était un très bel homme. Je ne sais pas, qui avait un visage de Sioux indien. Il avait des yeux verts. Ah oui, quand il rentrait dans des bureaux, toutes les femmes qui tapaient à la machine s'arrêtaient pour le regarder. Il avait beaucoup de bonté dans son visage. Oui, c'était aussi un séducteur, un grand séducteur, sûrement.
Marceline Loridan et Yoris Evans voyagent au Vietnam, en Hollande, au Laos puis en Chine, où ils réalisent de 1971 à 1975 une série de 12 films sur la révolution culturelle. Comment Yukong déplaça les montagnes.
On raconte, c'est une légende, 2000 ans à peu près. Alors on a un vieux homme qui habite dans la plaine, sa maison, et l'horizon est bouché par deux grandes montagnes. Alors il commence à lève une pioche, ôter les montagnes. Alors un autre vieux vient, mais tu sais, tu es fou de faire ça. Il dit, non, je ne suis pas si fou, parce qu'après moi, ce sont mes fils
de fils à mes fils, etc. Et graduellement, la deux montagnes sera enlevée. Alors le ciel a été très ému de cette tenacité, cet optimisme, non? Et le ciel était très ému, il a envoyé deux anges. Les deux anges ont envolé les deux montagnes, et maintenant l'horizon est clair. Et Mao Tse-tung prend cette légende dans l'une de ses œuvres, et il dit, et maintenant ce ciel, ça représente le peuple chinois.
Et la révolution culturelle, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas du tout à l'époque. C'est comme ça qu'on est venu vers cette idée de filmer la vie quotidienne dans des lieux précis. Et comme il fallait qu'on soit riche de quelque chose pour y aller.
Marceline Loridan-Ivens.
On n'est pas parti de nous. On est parti des questions que les gens se posaient ici par rapport à la Chine. Et c'est ça qui a été le film guide des films sur Yukon. Puisque moi, j'ai fait des tas d'enquêtes, j'ai ramassé des 200 questions. Et on a toujours relu ces questions. Et le film s'est fait, Yukon, uniquement sur la base des questions qui étaient posées aux gens et de tout ce qu'ils nous disaient à partir des questions qu'on avait ramassées ici.
Shanghai, 6 heures du matin. Les bateaux ici s'appellent Vent d'Est, Montagne Jaune, Tempête du Vent. Viennent aussi les Brasilia, les villes de Rotterdam. Et puis les jonques sans âge qui cabotent le long des côtes. La pharmacie, dite pharmacie numéro 3, dans un quartier très passant au sud de la ville. Elle emploie 24 personnes et reçoit à peu près 1000 clients par jour. Nous étions là, quotidiennement, pendant 8 semaines.
Jean Bijiaoui.
Le projet, c'est, en même temps, il n'était pas très, très précis. Ils voulaient filmer, mais ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient filmer, ni comment ils allaient le filmer, etc. Mais ils se sont mis à filmer, à accumuler des documents sur des différents lieux. Bon, beaucoup d'interviews. Plus le temps durait, parce que ça durait longtemps, et ils ont... accouché d'un monstre. Enfin, ils se sont retrouvés avec des kilomètres de mètres. Ils sont revenus, ils avaient avec 120 000 mètres. Ça veut dire 120 kilomètres. C'est énorme. Image et son, 120. C'est, enfin, vous pouvez imaginer. Il fallait contrôler la traduction aussi d'un point de vue cinématographique. D'abord, les premières traductions étaient des traductions chinoises. Donc, elles étaient parfois maladroites, parfois incompréhensibles. Et puis surtout, elles tenaient pas compte de l'image. C'était une traduction comme quelqu'un qui traduirait un livre. On a refait la traduction devant la table de montage, en disant, à cet endroit, il dit ça, là, il répète, là, il hésite, là, etc. L'objectif, c'était de montrer de l'intérieur. Ça veut dire au plus près des gens, ou des maisons, des familles, ce que c'était cette Chine si mystérieuse et cette Chine révolutionnaire, c'est-à-dire qui où la révolution entrait dans les maisons et dans la vie quotidienne. Pour faire connaître, faire comprendre et insister. Enfin, moi, c'était toujours c'est ça que je privilégiais, à savoir tout faire pour montrer que c'était des gens comme d'autres, avec les mêmes problèmes que d'autres, mais et qui s'étaient lancés dans une expérience politique tout à fait originale et exceptionnelle et qui avait valeur universelle.
Et il en a résulté donc 12 films, courts-métrages ou longs-métrages documentaires. Quel est votre préféré à vous
parmi ces 12? Je pense que c'est celui qui s'appelle « Une femme, une famille ». Qui est le plus, enfin, je trouve, où on va le plus, on est assez proche des gens et de leur vie quotidienne.
Le reportage, c'est l'instant. Le film documentaire de Yori, c'est pas l'instant, c'est le temps dans lequel cet événement se développe. Par rapport à des moments historiques importants, il le commente, il le refait, il le remonte, etc. Donc, il n'a pas cette espèce d'urgence que peut avoir le reportage. Et c'est là où son œuvre est intéressante. C'est qu'il approfondit les choses. Des choses très importantes, c'est quand il filme la Chine pendant combien? 10-12 heures. Mais à l'époque, c'était impressionnant que quelqu'un fasse un film aussi long et pendant aussi longtemps. Et dans un pays qu'on connaissait pas du tout et qu'on voulait pas connaître d'ailleurs, parce que c'était un pays du communisme, Il était condamné, si vous voulez. La Chine, à l'époque, n'était pas reconnue officiellement aux Nations Unies. C'était un pays. C'était 700 millions de personnes qui n'existaient pas. Les Américains avaient refusé de le reconnaître jusqu'au à Nixon et Kissinger, qui ont décidé de reconnaître l'Amérique, ce qui était un... De Gaulle l'avait reconnu avant, il faut dire. Avant tout le monde.
Et donc leur dernière grande aventure ensemble...
Bah, c'est une histoire de vent, hein, qui est basée sur un ensemble de légendes chinoises. Et en plus, avec de la part du risque, parce qu'il avait 91 ans, donc je pense qu'il devait beaucoup penser à la mort. Et là, il avait une volonté de faire quelque chose de très lyrique, de très poétique. Il y a plein de symboles dans ce film. Le vent, c'est ce qui transporte les informations, c'est ce qui fait changer, vibrer la nature, qui a permis aux hommes aussi de voyager, de parcourir les océans. Grâce au vent, ben, les bateaux, ils avançaient. En fait, c'est très, très important, ce film. C'est son testament, hein, le vent. Voilà. Beaucoup aidé par Marceline. Hein.
Et alors, Yoris se comparait souvent à une figure qui est le Hollandais volant.
C'est une figure de légende, justement. C'est un Hollandais qui a parcouru le monde et qui est rentré en Hollandais, ils disent volant, mais en réalité, c'est celui qui a parcouru le monde et qui est allé partout et qui revient dans son pays à la fin de sa vie. C'est lui, hein, en réalité, le Hollandais volant.
Je suis le Mistral, le latin magistral. Van Gogh a tenté de me peindre.
I am the tornado over Nebraska.
Il y a une chose dont je me suis souvenu en revoyant les dates de... puisqu'il a eu 90 ans en 1988, et je me souviens qu'il y avait une grande fête. C'était l'anniversaire de les 90 ans de Yoris, donc il fallait amener quelque chose, et je me souviens que j'avais galéré un peu dans Paris pour trouver un cerf-volant. Je lui ai offert un cerf-volant.
J'étais allé une fois chez lui préparer le film qu'il a fait sur le vent en Chine, et c'était très touchant, comme à un moment donné... Il me prend par la main comme un enfant qui veut vous montrer des bijoux qui sont cachés dans une petite boîte. Il m'emmène dans la chambre, dans son bureau de travail, je ne m'en rappelle plus. Il y avait une armoire qui m'ouvre. Et dedans, il y avait plein de trucs sur le vent en Chine, sur des documents. Et il était mais comme un enfant.
Une vie, une œuvre. Yoris Ivens, caméra au point. Avec Marceline Loridan-Ivens, Claude Brunel, Dominique Noguez, Costa Gavras, Jean-Pierre Thorne et Jean Bijiaoui. Documentaliste Hervé Enano. Merci à Amaury Auger et un grand merci à Marceline Loridan-Ivens. Coordination Irène Omelianenko, assistée de Claire Poinsignon. Prise de son Yves Lehors, Benjamin Chauvin, Sandrine Malon. Mixage Éric Boisset. Réalisation Ghislaine David. Une émission proposée par Antoine Ravon.
Ben, vous êtes chez lui et chez moi. On a pris cet appartement ensemble. Oh là là, il y a plus de 60 ans. Et j'y suis toujours, malheureusement, avec beaucoup de tristesse, sans lui. Et puis, quand j'entends des pas ou des bruits qui peuvent venir de quelque chose qui serait humain, je pense toujours que c'est lui qui est tout d'un coup revenu dans la maison. Est-ce que c'est vrai? Je crois pas, mais peut-être c'est vrai quand même. Il peut revenir, moi je serais très heureuse, parce que je l'aime toujours.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au pionnier de la musique électronique, Jean-Jacques Perret.